On behalf of the General Assembly,
au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur d'accueillir aux Nations Unies Son Excellence Dilma Rousseff, présidente de la République fédérale du Brésil, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée.
Embaixador Sam Kutesa, presidente da.
Monsieur l'ambassadeur Sam Kutesa, président de la 69e Assemblée générale des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, pour le Brésil, en tant que pays qui a l'honneur et le privilège d'ouvrir ce débat, c'est un grand plaisir de voir siéger à la présidence de cette session un fils de l'Afrique. Nous, les Brésiliens, nous sommes liés au continent africain par des liens historiques, des liens culturels et par l'amitié. La contribution de l'Afrique a été et est toujours très importante pour établir l'identité nationale de mon pays. Monsieur le Président, j'ouvre ce débat général quelques jours avant la tenue d'élections au Brésil qui permettront de choisir le président de la République, les gouverneurs des États et une partie importante du Congrès. Ces élections représentent le point culminant de la démocratie que nous avons obtenue il y a 30 ans après 20 ans de dictature. Et par le biais de la démocratie, nous avons également beaucoup progressé en matière de stabilité économique. Depuis une douzaine d'années, nous avons consolidé plus avant ces résultats. Et je pense notamment à la consolidation d'une société sans exclusion qui se base sur des mêmes possibilités pour tous. La grande transformation a permis de produire une économie moderne et plus juste en même temps. Ceci a exigé une participation active de notre population, le respect des droits de l'homme et une façon d'envisager le développement d'une manière durable. Enfin, cette approche a également exigé d'agir sur la scène internationale en se basant sur une approche multilatérale, en respectant le droit international, la recherche de la paix et la solidarité. Monsieur le Président, il y a quelques jours, la FAO a annoncé que le Brésil ne figurait plus sur la carte mondiale de la faim. Et ceci est dû à des politiques économiques qui ont permis de créer 21 millions d'emplois, qui ont permis d'améliorer et d'hausser le salaire minimum en augmentant le pouvoir d'achat de 71% depuis 12 ans. Et grâce à cela, nous avons pu réduire les inégalités. 36 millions de Brésiliens ont pu sortir de la pauvreté extrême depuis 2013, 22 millions durant ma présidence seulement. Des politiques sociales et des programmes de transfert des revenus ont également consolidé ces efforts, notamment le plan Brésil, le Brésil sans la pauvreté extrême. Dans le domaine des soins de santé, nous sommes parvenus à atteindre l'objectif de réduction de la mortalité infantile avant la date butoir établie par les objectifs du millénaire pour le développement. Et l'accès universel à l'éducation primaire est devenu une réalité et nous sentons de faire le même pour l'éducation secondaire. Nous nous sommes engagés à améliorer la qualité de l'éducation en renforçant les programmes et en renforçant la formation des enseignants. L'enseignement professionnel a également progressé. Des centaines de nouvelles écoles ont ouvert leurs portes et ont permis la formation professionnelle et technique de 8 millions de jeunes gens ces 4 dernières années. Il y a eu un renforcement sans précédent de l'éducation supérieure avec la création de nouvelles universités. De nombreuses personnes ont pu bénéficier de bourses et d'aides financières pour avoir accès à des universités privées. Des actions affirmatives ont permis à de nombreuses personnes d'origine pauvre, autochtone ou de descendance africaine à avoir accès à des universités. De plus, le défi pour construire une société basée sur la connaissance a mené à la création d'un programme spécial, la Science sans frontières, qui a envoyé des centaines de milliers d'étudiants de premier et de deuxième cycle aux meilleures universités du monde. À l'initiative de la présidente, le Congrès a adopté une loi qui prévoit l'allocation de 75% des redevances de l'exploitation de pétrole en zone antésalifère vers l'éducation et 25% vers les soins de santé. De plus, nous allons remplacer les ressources limitées comme le pétrole et le gaz en avoir permanent. L'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Et ceci représentera notre laissez-passer pour l'avenir. Monsieur le Président, nous n'avons pas négligé la discipline budgétaire et la stabilité monétaire et nous avons protégé le Brésil d'une vulnérabilité extérieure. Mais en même temps, nous devons répondre aux différents défis posés par la crise économique mondiale qui a commencé en 2008, qui a suivi l'écroulement de la banque Lehman Brothers, qui est devenue une crise de la dette souveraine dans de nombreux pays. Nous avons survécu aux pires conséquences. Chômage, diminution des salaires, érosion des droits sociaux et gel des investissements. Nous avons l'intention de continuer à distribuer les revenus en stimulant la croissance et l'emploi, en continuant les investissements dans l'infrastructure. Le Brésil est passé de la 13e place à la 7e place en tant que plus grande économie du monde. Les revenus ont été multipliés par 3. En l'an 2000, plus de la moitié de la population brésilienne était pauvre. Maintenant, 3 sur 4 Brésiliens font partie de la classe moyenne ou des classes supérieures de la société. Durant la crise, alors que de par le monde, des centaines de millions de travailleurs ont perdu leur emploi, le Brésil a créé 12 millions d'emplois officiels. Et de plus, nous avons consolider notre position en tant que destination d'investissement étranger. Nous avons repris des investissements dans l'infrastructure grâce à des partenariats solides avec le secteur privé. Tous ces gains et ces résultats ont été réalisés dans un contexte fiscal sain, budgétaire sain. Nous avons réduit la dette publique de 60 à 35%. La dette extérieure par rapport au PIB est passée de 42 à 14%. Nos réserves internationales ont été multipliées par 10 et nous sommes donc devenus un créancier international. Le taux d'inflation annuel est resté dans les fourchettes déterminées par les objectifs qui avaient été décidés. Monsieur le Président, nous sommes parvenus à contrer les pires conséquences de la crise mondiale. Mais cette crise a quand même touché la population ces dernières années. Et ceci est dû au fait que dans toutes les régions du monde, il reste des difficultés économiques qui ont une incidence sur notre modèle de croissance. Et j'aimerais réitérer ici ce que j'ai dit l'année dernière lors de l'ouverture du débat général. Il est très important de relancer le dynamisme de l'économie mondiale qui devrait servir de moteur pour les investissements, un instrument pour encourager le commerce international et qui devrait permettre de réduire les inégalités entre les pays et pas un élément qui va ralentir le développement économique et la distribution des revenus dans la société de manière générale. Concernant le commerce international, toutes les parties doivent s'engager à suivre un programme de travail et à terminer le cycle de Doha. Il est crucial, Monsieur le Président, également de mettre fin aux disparités qui existent entre certains pays en développement dans l'économie du monde et leur représentation insuffisante et leur sous-représentation dans les processus de prise de décision, notamment au sein d'institutions financières internationales comme le FMI et la Banque mondiale. Leur retard pour élargir les droits de vote des pays développants au sein de ces institutions est tout à fait inacceptable. Le risque auquel ces institutions font face est qu'elles vont perdre leur légitimité et leur efficacité. Monsieur le Président, le Brésil a eu le plaisir d'accueillir le 6e sommet des pays membres du BRICS au mois de juillet. Nous avons accueilli les dirigeants de la Chine, de l'Inde, de la Russie et de l'Afrique du Sud pour une réunion fraternelle et riche qui a indiqué les grands de perspectives de l'avenir. Nous avons signé des accords pour créer une nouvelle banque de développement et un accord pour une réserve d'urgence. Cette banque va pouvoir permettre de répondre aux besoins de financement en infrastructure des pays BRICS et d'autres pays en développement. L'accord de la réserve d'urgence permettra de protéger les pays d'instabilité financière de l'extérieur. Et chaque instrument reprendra une injection de capital de 100 milliards de dollars. La génération de dirigeants du monde, c'est-à-dire notre génération, a été interpellée pour qu'elle relève des défis redoutables concernant la paix, la sécurité collective et l'environnement. Et pourtant, nous n'avons pas été à même de résoudre d'anciens différends et d'empêcher de nouvelles menaces d'émerger. L'utilisation de la force ne peut pas éliminer les causes sous-jacentes du conflit. Et ceci est dit clairement lorsque l'on voit la question de la Palestine qui n'est pas résolue. Et ceci est aussi très clair en voyant le massacre systématique de la population syrienne, le démantèlement national de l'Irak, l'insécurité terrible en Libye, les conflits au Sahel et les affrontements en Ukraine. Chaque intervention militaire ne nous permet pas d'avancer par la paix. Au contraire, nous voyons que la situation et les conflits s'aggravent. Il y a une prolifération du nombre de victimes civiles. Il y a de nombreuses catastrophes humanitaires. Nous ne pouvons pas accepter que ces actes barbares augmentent et viole ainsi nos valeurs de civilisation, nos valeurs éthiques et morales. Mais nous ne pouvons pas rester indifférents non plus face à la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi nous appuyons la proposition faite par le secrétaire général d'établir la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Le Brésil est tout à fait en faveur de cette mission. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité des Nations Unies a rencontré des difficultés pour promouvoir des solutions pacifiques à ces conflits. Pour sortir de l'impasse, une vraie réforme du Conseil de sécurité est nécessaire. Il s'agit d'un processus se fait attendre depuis très longtemps. Le 70e anniversaire des Nations Unies en 2015 nous semble une occasion propice pour tenter d'atteindre les progrès nécessaires. Je suis convaincue que nous comprenons très bien les risques qui sont liés à la paralysie et au manque d'action prise par le Conseil de sécurité. Un Conseil de sécurité plus légitime et plus représentatif permettra à celui-ci d'être plus efficace. Je souhaite souligner que nous ne pouvons rester indifférents face à la crise israélo-palestinienne et surtout après les terribles événements dans la bande de Gaza. Nous condamnons l'utilisation disproportionnée de la force qui a eu un impact épouvantable sur la population civile, notamment les femmes et les enfants. Ce conflit doit être résolu comme il se doit. Il ne doit pas être géré à la va-vite comme cela a été le cas. Des négociations efficaces entre les parties doivent mener au final à une solution des deux États. La Palestine et Israël vivant côte à côte en toute sécurité et dans le cadre des frontières reconnues internationalement. Face à tant de situations de conflit, l'Amérique latine et les Caraïbes tentent de juguler un problème qu'ils connaissent depuis des centaines d'années, l'inégalité sociale. Les racines de la démocratie sont devenues plus fortes, ce qui nous a permis d'avancer en matière de développement économique durable. Par le biais de l'UNASUR, de la Commission économique pour l'Amérique latine et des Caraïbes et Mercosur, nous avons pu faire des progrès. Monsieur le Président, le changement climatique est un des grands défis de l'heure. Pour pouvoir le relever, nous devons faire preuve de courage politique. Nous devons comprendre l'urgence de la situation et nous devons comprendre que chacun doit agir en respectant les principes de l'égalité et des responsabilités communes mais différenciées. Le sommet sur le climat organisé à point nommé par le secrétaire général ne fait que renforcer les négociations au titre de la convention cadre. Le gouvernement brésilien fera tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que les résultats des négociations pavent la voie à un accord équilibré, juste et efficace. Le Brésil a fait sa part pour lutter contre le changement climatique. En 2009, durant la conférence de Copenhague, nous sommes engagés à réduire volontairement nos émissions d'ici à 2020 de 36 à 39% entre 2010 et 2013. Nous avons évité de rejeter dans l'atmosphère en moyenne 650 millions de tonnes de CO2 par an. Durant cette période, nous avons atteint les taux de déforestation les plus bas de notre histoire. Depuis 10 ans, nous avons réduit la déforestation de 79%, sans négliger toutefois notre développement économique et notre programme d'inclusion sociale. Nous avons montré qu'il était possible de croître tout en protégeant et en maintenant. Et ce résultat vient des efforts sans faille du gouvernement, de la société civile brésilienne et d'acteurs privés et publics. Nous espérons que les pays développés, les pays qui ont non seulement une obligation juridique, mais également une obligation morale et politique de montrer l'exemple, montreront leur engagement par rapport à la lutte contre le changement climatique qui nous touche tous. Durant la conférence de Rio+20, nous avons été très heureux de pouvoir établir un nouveau programme, un programme basé sur les objectifs de développement durable qui s'applique tant aux nations développées qu'aux nations en développement. Il est très important de déterminer les moyens de mise en œuvre qui correspondent à l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. Ici, nous devons être ambitieux pour ce qui est du financement, de la coopération, du renforcement des capacités nationales et du transfert de technologies, surtout dans l'intérêt des pays les moins développés. Et dans ce contexte, je souhaiterais mettre en exergue la nécessité d'établir un mécanisme favorable au transfert de technologies durables propres et à leur distribution. Outre le développement durable et la paix, l'ordre international que nous espérons construire est ancré sur des valeurs. Et ces valeurs comprennent notamment des efforts pour lutter contre toute forme de discrimination et d'exclusion. Nous sommes clairement engagés par rapport à l'autonomisation des femmes dans leur lieu de travail, dans leurs activités politiques et pour ce qui est de l'accès à l'éducation, notamment. Mon gouvernement a lutté sans relâche contre la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes. Nous considérons que le 21e siècle est le siècle des femmes. De la même façon, au Brésil, la promotion de l'égalité raciale se base sur la lutte contre les conséquences de l'esclavage. Plus de la moitié de notre population remonte d'origine africaine. Et cela va aller à l'encontre des valeurs humaines. Pour nous, la mixité raciale, c'est une source de fierté, car le racisme, c'est un crime abject, un outrage, et nous devons le punir et le supprimer. Nous avons eu un engagement similaire dans la lutte contre l'homophobie. La Cour suprême brésilienne a reconnu les unions civiles de personnes de même sexe en leur donnant tous les droits civiques qui en découlent. Nous croyons fermement à la dignité de tous les êtres humains et en l'universalité de leurs droits fondamentaux. Ces droits doivent être protégés de toute approche de deux poids, deux mesures et de toute politisation, tant au niveau national qu'au niveau international. Et pourtant, une autre valeur essentielle, c'est également le respect des biens publics Et il nous faut lutter contre la corruption. L'histoire nous montre qu'il n'y a qu'une façon efficace de lutter contre la corruption, c'est de mettre fin à l'impunité. Il faut donc renforcer les institutions qui contrôlent, qui mènent des enquêtes et qui punissent les actes de corruption, le blanchiment d'argent et d'autres crimes de nature financière. Il incombe à chaque gouvernement de se faire. C'est une responsabilité que nous avons respectée en renforçant nos institutions. Nous avons créé un portail de transparence du gouvernement qui permet aux citoyens d'avoir accès à toutes les informations concernant les dépenses du gouvernement. Nous avons également adopté une loi sur l'accès à l'information qui permet à tous les citoyens brésiliens d'avoir accès à des données gouvernementales à l'exception d'informations liées à la souveraineté du pays. Nous avons renforcé des organismes d'enquête et nous leur avons donné davantage d'autonomie ainsi que les institutions chargées des audits du gouvernement. Nous avons passé des lois qui punissent la corruption, mais également active et passive. Des institutions fortes sont essentielles pour pouvoir arriver à une gouvernance démocratique et ouverte. La réélection du Brésil au comité exécutif du partenariat de gouvernement ouvert nous aidera également à établir des gouvernements plus transparents de par le monde. Monsieur le Président, il est crucial que des mesures soient prises pour pouvoir vraiment défendre les droits de l'homme, non seulement dans le monde réel, mais également virtuel, comme cela est stipulé dans la résolution adoptée par cette Assemblée générale sur la vie privée et l'ère numérique. Le Brésil et l'Allemagne ont encouragé cette discussion qui s'est tenue en 2013 et nous souhaiterions approfondir ce débat durant cette session-ci. Concernant le rapport... Rapport préparé par le Haut Commissaire aux droits de l'homme. Ce rapport nous servira de base pour l'évaluation de ces points. Je propose qu'un cadre civil soit élaboré concernant la gouvernance et l'utilisation de l'Internet, un cadre qui se baserait sur les principes de la liberté d'expression, de la vie privée, de la neutralité de la toile et de la diversité culturelle. Je prends note avec grande satisfaction du fait que la communauté internationale, depuis, a mobilisé ses efforts afin de renforcer l'architecture de l'Internet existante. L'initiative du Brésil visant à organiser une réunion mondiale sur l'avenir de la gouvernance Internet qui s'appelle Net Mondial à Sao Paulo en avril était un pas dans la bonne direction. Cette réunion a permis de rassembler des parties prenantes de différentes régions du monde et de différents secteurs. Les actions qui devaient suivre ont été examinées afin de nous assurer que l'Internet continue de se développer d'une manière ouverte, démocratique, libre, permettant différentes parties prenantes d'intervenir. Monsieur le Président, les Nations Unies et ses États membres doivent relever des défis redoutables aujourd'hui. Et ces défis doivent être les priorités de cette session de l'Assemblée générale. L'année 2015 sera une année charnière et je suis convaincu que nous serons à la hauteur de nos responsabilités, avec courage, avec lucidité, afin de construire un ordre international profondément ancré dans la promotion de la paix, du développement durable, de la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Le Brésil est prêt à contribuer pleinement. Merci beaucoup.